pour Afrique Midi.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Vous commentez l'actualité de votre choix, c'est la Libre Antenne, vous revenez sur tous les sujets qui vous ont marqué ces derniers jours et vous êtes encore nombreux ce matin à souhaiter réagir à la Côte d'Ivoire. Xavier Besson en parlait à l'instant dans ce journal, c'est aujourd'hui que sera inhumé dans sa ville natale de Korogo Amadougon Koulibaly, Premier ministre et candidat à la présidentielle. L'heure est évidemment encore au deuil, au recueillement, mais une fois les obsèques passées, le RHDP, le parti présidentiel, va devoir trouver un nouveau candidat. Tout le monde se pose déjà cette question. Qui pour porter les couleurs du RHDP? Karamoko, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs des RFI.
Vous êtes à Abidjan et vous souhaitiez commenter cette actualité.
Oui, justement Juan, pour ma part, je souhaiterais déjà souhaiter mes condoléances à la famille biologique d'Amadou Bon Koulibaly et également à sa famille politique. Quant à sa succession, je pense que le RHDP regorge de compétences pouvant le remplacer valablement. Je pense notamment à M. Patrick Hachi, qui a suivi pratiquement le même chemin que M. Amadou Bon Koulibaly.
Patrick Hachi, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le secrétaire général de la présidence. Hein.
C'est ça, oui.
Mmh.
Et ministre d'État. Mmh. Et ensuite, il passe... au secrétaire général, il passe secrétaire général de la présidence, chemin qu'avait suivi Amadou Bon Koulibaly, technocrate de son état, il a toutes les compétences que l'on peut exiger pour un poste présidentiel.
Ouais. Vous ne croyez pas, vous, à un possible retour d'Alassane Ouattara dans l'arène politique? Enfin, il est toujours président, mais il ne souhaitait pas briguer de troisième mandat. Est-ce que le décès de ce proche collaborateur, de celui qu'il appelait mon fils, peut changer la donne?
Non, je ne pense pas que le décès d'Amadou Bon Koulibaly pourrait changer le point de vue du président Alassane Ouattara. Voilà, d'autant plus qu'il nous a toujours fait savoir qu'il respectait toujours ce qu'il disait. Voilà, pour moi, il respecterait sa parole et il trouverait quasiment quelqu'un au sein du parti pour remplacer AGC, Amadou Bon Koulibaly.
Ouais, vous restez en ligne, Karamoko. Je vous présente Aïssata. Elle est également dans la capitale économique ivoirienne. Bonjour Aïssata.
Bonjour.
Qui pour porter les couleurs du parti présidentiel?
En ce moment, je pense que, comme M. Karamoko, hein, mes idées vont vers M. Patrick Hachi,
ah oui,
qui a des valeurs, qui a des bonnes qualités, qui est aussi un disciple de M. Ouattara, qui est loyal et très humble,
mm-hmm,
qui pourrait remplacer valablement M. Amadou Bon Koulibaly. Paix à son âme.
Aïssata, vous ne pensez pas, vous aussi, donc à un retour d'Alassane Ouattara?
Vous connaissez mal M. Ouattara, c'est un monsieur qui respecte sa parole. Hein.
Mm-hmm.
Ce monsieur-là, c'est un grand homme. On en a rarement vu comme ça en Afrique. Et il a dit qu'il faudra laisser la place aux jeunes.
Oui, à la jeune génération. Effectivement.
Nouvelle génération.
Aïssata.
Bon, je sais que ça fait très mal aujourd'hui à certaines personnes qui aimeraient vraiment qu'il revienne. Mais moi, je lui fais confiance à ce monsieur. Il va respecter sa parole. Il a besoin aussi de retraite. Et à un moment donné, pour un travailleur, il faut pouvoir s'arrêter et puis partir à la retraite.
Bien sûr. Voilà. Mais lui-même a dit qu'il fallait effectivement que la jeune génération prenne la relève. Il a dit, j'ai ses propos sous les yeux, je veux que tous ceux de ma génération comprennent que notre temps est passé. Mais si eux décident d'être candidats, alors je serai candidat. Il se trouve que depuis qu'il a renoncé à briguer donc un troisième mandat, Henri Colombédier, 86 ans, a décidé d'être candidat. Est-ce que ça ne peut pas l'inciter finalement de dire, bon, bah allons-y. Allons pour un énième combat politique.
Non, la gérontocratie, là, on n'en veut plus.
Oui.
On n'en veut plus. Moi, je sais que M. Ouattara, il va respecter sa parole. Il ne va pas copier un autre modèle qui n'est pas du tout exemplaire. Et il va laisser la place à ces jeunes qu'il a formés.
Alors,
il y en a plein derrière lui qu'il a formés, qui sont aussi valables. Il n'y a même pas que M. Patrick Hachi, hein. Il y en a d'autres que je ne vais pas citer.
Oui.
Mais bon, moi, je pense qu'il est temps quand même que certaines personnes prennent leur retraite. Et il y a les jeunes qui attendent. De loin, M. Ouattara pourra suivre ce qui se passe dans le pays.
Alors, je voudrais que Karamoko puisse réagir à vos propos. Karamoko, le mot de la fin, la petite conclusion.
Oui, je suis entièrement d'accord avec Aïssata. Et je pense que Patrick Hachi fait l'unanimité au sein du parti. Voilà.
Donc il faudra, à vous entendre tous les deux, Aïssata et Karamoko, il faudra donc que le RHDP désigne un nouveau dauphin, donc plutôt qu'un retour d'Alassane Ouattara. On verra ça évidemment, on suivra cela dès la semaine prochaine. D'ailleurs, dès lundi, François Mazet, qui sera à ce micro, vous donnera la parole sur ce sujet. Isaac est avec nous. Bonjour Isaac.
Bonjour Juan.
Vous êtes en République démocratique du Congo et comme de nombreux auditeurs, vous nous appelez de Kinshasa pour manifester votre mécontentement, comme l'opposition mais aussi comme le parti présidentiel, mécontentement après le choix par l'Assemblée nationale de Ronsard Malonda pour présider la commission électorale dans votre pays. Alors on lui reproche en quelques mots d'être l'homme de l'ancien président Joseph Kabila. Effectivement, les deux hommes sont issus du même bord politique. Il se trouve que Ronsard Malonda a longtemps travaillé au sein de cette commission électorale. Il est accusé d'avoir tripatouillé les résultats des trois derniers scrutins présidentiels, donc 2006, 2011 et 2018. Vous, Isaac, pourquoi faites-vous partie de ceux qui disent il faut n'importe qui d'autre, mais pas lui ?
Oui, Juan, vous savez, je ne suis pas du tout d'accord avec la candidature de M. Ronsard Malonda, puisque non seulement qu'il a travaillé avec l'ancien régime de M. Kabila, mais ce qui laisse encore à désirer sur le dossier Ronsard, c'est la précipitation et la sourde oreille du FCC, donc le FCC de Joseph Kabila.
Joseph Kabila,
alors,
oui.
C'est ce qui nous laisse voir que M. Malonda est placé à ce poste à dessein.
Donc vous avez l'impression, enfin en tout cas vous êtes convaincu que Joseph Kabila veut continuer à contrôler la commission électorale.
Exactement. Comme ils l'ont fait par les années passées, il veut garder sa majorité parlementaire pour essayer de se sécuriser lui-même et ses proches.
Mais vous comprenez vraiment, Isaac, la position du parti présidentiel de l'UDPS, de Félix Tshisekedi, parce que l'UDPS dit on ne veut pas de Ronsard Malonda, puisqu'il a mauvaise réputation, il serait la pièce maîtresse qui a permis de trafiquer les résultats des dernières élections. Pourtant, la dernière élection présidentielle, elle a été remportée par le parti présidentiel, donc par l'UDPS aujourd'hui. Donc, il n'y a pas un paradoxe pour vous, il n'y a pas une contradiction.
Je comprends très bien la position du parti UDPS, puisque les élections, bien sûr, elles se sont passées, elles ont fait que M. Félix Tshisekedi est sorti vainqueur de cette élection, mais cela n'empêche qu'il y a eu plusieurs irrégularités dans ces élections. Et moi, je trouve que c'est ça la bonne démocratie. Bien qu'on ait au pouvoir, bien qu'on a la présidence de la République, mais il ne faut pas oublier ce qui s'est passé dans un passé récent.
Ouais, effectivement. Alors il y a eu beaucoup de commentaires hein, postés sur notre page Facebook. Il y a Ben à Lubumbashi. Il affirme que Ronsard Malonda est présent dans l'équipe de la CENI depuis 2006 et nous avons vu comment toutes les élections ont été entachées d'irrégularités et pire encore, la dernière présidentielle en 2018 a été une honte internationale. Alors pourquoi donner une nouvelle occasion à cet individu de ridiculiser à nouveau le pays. Et puis un dernier commentaire, puisque vous avez été très très nombreux, j'en cite au moins deux, Jean à Goma. Si le président Tshisekedi veut corriger les erreurs du passé et consolider la démocratie, il ferait mieux de trouver une autre personne pour présider la commission électorale. Là aussi, le débat est loin d'être clos. Vous aurez l'occasion tout au long de l'été de vous exprimer sur l'antenne de RFI. Bonjour Boubacar.
Bonjour Juan, bonjour aux auditeurs de RFI.
Vous êtes à Ouagadougou, au Burkina Faso, et vous nous interpellez sur la publication, il y a quelques jours, d'un rapport de l'ONG Human Rights Watch accusant l'armée nationale de votre pays d'être impliquée dans l'exécution de 180 personnes dans le nord du Burkina Faso.
Effectivement, mais au-delà de ce rapport de Human Rights Watch, il faut dire que des organisations de la société civile comme le MBDHP, le Mouvement Burkinabé des droits de l'homme et des peuples, au Burkina ont déjà pointé un doigt accusateur sur ces forces de défense et de sécurité.
Ouais, c'est vrai que ce n'est pas la première fois que l'armée burkinabé est accusée. Hein.
Oui, ce n'est pas la première fois, et je crois aussi que le président du Faso a eu plusieurs fois l'occasion de dire que des sanctions seront prises à l'encontre de ceux qui se seront illustrés de façon négative dans ces situations-là.
Oui, mais enfin, des sanctions, certains vous diront qu'ils les attendent toujours, ces sanctions.
Oui, sans doute, mais il faut dire que bon, on a eu l'impression que des choses étaient en train de bouger dans la mesure où les incidents qui s'étaient passés dans l'est du pays il y a quelques semaines ont vu quand même l'interpellation de l'un de des éléments qui sont impliqués dans cette affaire, et même il a été relevé de ses fonctions. On croit qu'il y a un début. Mais ce qu'il y a de plus important, à mon avis, pour que toute la communauté internationale, et même la communauté burkinabé surtout, soit rassurée, il faudrait qu'il y ait une enquête, il faudrait qu'il y ait des enquêtes pour essayer de situer effectivement les responsabilités. Ça met tout le monde à l'aise.
Bien sûr, le gouvernement a déclaré qu'il allait enquêter sur les accusations de cette ONG. J'imagine que vous avez suivi un peu les déclarations des différents ministres concernés, le ministre de la Défense, le porte-parole du gouvernement, qui dit... pour réaliser un tel rapport, l'ONG s'est basée sur les témoignages des villageois, de la population, et je crois que c'est le ministre de la Défense qui disait qu'il était compliqué pour la population de faire la distinction entre des groupes terroristes armés et les forces de défense et de sécurité.
Bon, ça, je peux le concéder parce que nous sommes dans une situation très, très, très complexe. La lutte contre le terrorisme, on ne sait pas qui est terroriste, qui ne l'est pas, qui est force de défense et sécurité. Avec les tenues, quelquefois, on ne sait même pas qui est qui.
Bien sûr.
Donc, c'est un peu ces problèmes que nous avons. Mais rien, surtout rien ne permet vraiment à nos forces de défense et sécurité qui doivent représenter notre État, qui doivent se faire professionnels, rien ne n'autorise à avoir des comportements assez scandaleux. Et je crois que c'est là le problème, c'est que ça va mettre à mal la cohésion sociale, la collaboration qu'on attend entre les populations et les forces de défense et sécurité ne pourrait pas se faire, et à l'intérieur même des communautés, des problèmes peuvent surgir. Parce que qui va dénoncer l'autre, et cette dénonciation...
Et effectivement, et comment avec de telles exactions, si elles sont effectivement confirmées par le gouvernement, comment après la population peut-elle avoir confiance dans son armée? Comment peut-elle coopérer si elle se dit « je risque d'être victime de violations des droits humains » comme le dénoncent de nombreuses ONG. Merci infiniment, Boubacar, de nous avoir interpellé sur ce sujet. Prenez soin de vous à Ouagadougou. Merci de votre fidélité. On va parler de la crise politique au Mali. Voilà un sujet qui ne vous laisse pas indifférent. Vous êtes toujours aussi nombreux à souhaiter prendre la parole. La crise politique au Mali, là aussi, on en parlait tout à l'heure dans le journal de Xavier Besson, puisqu'une importante délégation de la CDAO est à Bamako depuis mercredi. La CDAO qui essaye de trouver une solution, de trouver un compromis pour que le bras de fer se termine entre le président Ibeka et ses opposants qui réclament toujours sa démission. Daouda, bonjour.
Oui, bonjour Juan.
Bienvenue Daouda, nous vous écoutons sur cette crise.
Oui, moi je pense qu'à ce stade de la situation, il est mieux que le président parte. Parce que s'il y voit de son honneur et même du reste même, du fait qu'il reste du Mali. Parce que nous sommes dans une situation où le président, il est incapable de trouver des solutions aux problèmes du pays, et il en rajoute. Parce qu'on se rappelle dans quel contexte le président a été élu. Pratiquement, il n'y avait pas d'opposition. Tout le monde a voté pour lui.
Parce il a été élu, puis réélu, il y a 2 ans.
Oui, la dernière fois, c'était vraiment pas une élection, c'était une mascarade d'élection. On a vu des urnes bourrées de part et d'autre par ses partisans.
Oui, c'est votre perception, Daouda. C'est votre perception. Vous avez vu des urnes bourrées. Je voudrais bien les voir. Si vous avez les photos, envoyez-les-moi et je veux bien. Mais enfin, il a été réélu. Que fait-on alors? Est-ce que sa main tendue vous semble insuffisante lorsqu'il dit « Je suis prêt à un gouvernement d'union nationale. Je vais dissoudre la Cour Cour constitutionnelle, qui est l'une des revendications des opposants. Je rappelle, hein, j'ouvre rapidement une parenthèse, la Cour constitutionnelle qui est accusée par une partie de la population d'avoir tripatouillé les résultats des dernières élections législatives. Donc la Cour constitutionnelle et un gouvernement d'union nationale, c'est insuffisant.
Oui, mais quelle main tendue, Juan. Vous parlez de main tendue, en même temps vous parlez de tirer sur des manifestants. C'est-à-dire, il dit à la télé qu'il a la main tendue, mais Ibeka n'est pas dans une logique de négociation. Quand on est dans une logique de négociation, on ne tire pas sur les gens. Quand on est dans une logique de négociation, il a dit qu'il n'a pas pouvoir de dissoudre la Cour constitutionnelle. Mais il a fait.
Oui.
Il a dit qu'il a la possibilité de dissoudre l'Assemblée. C'est une des revendications du M5-RFP. Il ne l'a pas fait.
Donc pour vous, la seule solution, c'est la démission du chef de l'État.
Carrément. Parce qu'on se demande dans quelle logique de négociation il est. Il dit qu'il tend la main, mais en réalité, ce n'est pas ça.
Bon, c'est votre... En tout cas, vous ne le percevez pas comme cela. Ne raccrochez pas, Daouda. Je vous présente Adama, également à Bamako. Bonjour, Adama.
Bonjour, monsieur Rouen.
Bienvenue.
Ben, merci beaucoup. Bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Vous n'êtes pas convaincu par une démission d'Ibeka?
Effectivement, pas du tout. Moi, je pense que la démission d'Ibeka ne serait pas forcément une solution pour le Mali aujourd'hui. Vu qu'il y a tellement de défis à relever, c'est-à-dire pour moi, aller perdre son temps sur la démission d'Ibeka, c'est minimiser le problème dans lequel le Mali est aujourd'hui, en fait. Je pense plutôt qu'il faut chercher à trouver un terrain d'entente et que, voilà...
Alors justement, le terrain d'entente, sur quoi peuvent-ils s'entendre?
D'abord, il faut dissoudre l'Assemblée, parce que moi je pense que l'élection de cette Assemblée-là n'a pas été faite comme il faut d'abord.
Mm-hmm.
Si vous vous souvenez, M. Ouan, à un moment, les Maliens se plaignaient de l'organisation de l'élection même au Mali, en fait.
Oui.
Parce qu'au moment où ça s'organisait, c'était le début au coronavirus. Donc les gens se plaignaient.
Adama,
beaucoup,
donc d'abord,
beaucoup ne sont pas
allés, ne sont pas allés voter. Donc dissolution de l'Assemblée nationale, et donc on refait des législatives.
C'est ça. Pour moi, c'est ça la solution.
C'est
et refaire les législatives, et que voilà, les choses reprennent leur cours normal.
Bon, on suivra cela, évidemment, tout au long du week-end, avec nos correspondants sur place. Merci à tous les deux, Adama et Daouda. Bonne journée, bon week-end à Bamako, où il est 8h57. On va parler de Didier Drogba. Il est candidat à la présidence de la Fédération Ivoirienne de Football. Et visiblement, ça s'annonce très mal pour l'ancien international ivoirien. Bonjour Hervé.
Bonjour, monsieur Rand.
Vous êtes ivoirien, vous nous appelez de la région parisienne.
Oui.
Et vous n'êtes pas surpris, vous, hein, par les difficultés que rencontre Didier Drogba à s'imposer, finalement, et à essayer d'être candidat.
Non, pas du tout. Pas du tout, parce que j'ai suivi quand même la carrière de Didier Drogba au niveau de l'équipe nationale. Il a eu une bonne carrière, et à un moment donné, surtout vers la fin, la manière dont Didier Drogba est sorti de l'équipe nationale, il fallait s'y attendre. Il fallait s'y attendre. Parce que si, effectivement, il connaissait cette équipe, s'il connaissait la FIF, ben, et s'il avait de bons rapports à l'intérieur, je pense qu'il aurait parti de l'équipe nationale en de bons termes.
Oui.
Mais tous savons dans quelles conditions il est parti.
Donc
déjà, ça
veut dire quoi, ça veut dire quoi, Hervé, avec tout le respect qu'on doit évidemment à Didier Drogba, vous l'avez trouvé arrogant, vous l'avez trouvé prétentieux?
Je l'ai trouvé arrogant et personnellement, je ne le connais pas.
Moi
je connais
plus.
Didier Drogba sur le terrain,
moi
mais
aussi.
Je ne connais pas la personne de Didier Drogba. Donc, je ne peux pas dire qu'il est arrogant, machin, tout ça. Mais je pense qu'il ne s'est pas suffisamment préparé pour briguer le poste de président de la FIFA.
Ouais. Franck, vous êtes à Abidjan également. Ah, Franck était à Abidjan. Bon, la ligne vient de couper, tant pis. Franck, lui, était très déçu pour Didier Drogba. En tout cas, je rappelle que quand même, pour être candidat, il faut être parrainé soit par l'amicale des entraîneurs, soit par l'amicale des joueurs, des anciens joueurs, des arbitres, ou celle des médecins. Et visiblement, aucune de ces amicales ne parraine Didier Drogba. Donc, ce sera évidemment très compliqué pour lui. Bah, il devra patienter 4 ans et retenter sa chance dans 4 ans, 2024. On attend tout de même la confirmation de l'information concernant le parrainage de l'amicale des médecins, pour l'instant au conditionnel. Merci à tous de votre fidélité. Lundi, vous serez en compagnie de François Mazet, vous parlerez donc de la